Bras Zéro, Brassage Radio. On est sur Canal Sud, le 92.2 en direct de Bras Zéro. On va être ensemble de 19h à 20h avec une invitée, Anan Sfalti. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, tu es doctorante en anthropologie et tu écris une thèse qui s'intéresse au parcours des mères en situation de migration et à leur accompagnement par des structures associatives et médico-sociales en Île-de-France. Aujourd'hui, tu viens présenter Radio à cœur ouvert, un documentaire sonore réalisé dans le cadre de tes recherches qu'on écoutera ensuite.
C'est ça.
Alors, on a préparé des petites questions pour toi. La première qu'on avait envie de te poser, c'est comment, toi, tu as été amenée à travailler sur cette question?
Alors, je me suis intéressée les raisons pour lesquelles je me suis intéressée au parcours des mères en situation de migration, elles sont multiples. Et je m'y suis notamment intéressée parce que dans le cadre de mon mémoire de recherche, donc le mémoire de master, j'ai travaillé sur l'enfermement des jeunes filles considérées comme déviantes et délinquantes dans des institutions catholiques qui s'appelaient le Bon Pasteur. Et elles étaient enfermées là-bas, soit parce qu'elles étaient maltraitées, soit voilà, parce qu'elles étaient considérées comme délinquantes. Et en fait, m'intéresser à ces questions-là, ça m'a amené à m'intéresser aux questions des mauvaises familles, entre guillemets, évidemment, mauvaises familles, mais puisque en fait elles étaient dans ces structures-là, parce que souvent on considérait que leurs parents n'étaient pas en mesure de bien les éduquer. Et donc en fait, ça c'était pour mon master, et ensuite donc, je me suis interrogée sur qui sont aujourd'hui qui est considéré aujourd'hui comme les mauvaises familles. Et en fait, en France aujourd'hui, les mauvaises familles, c'est souvent les familles des personnes racisées, les familles des personnes en situation de migration. Et donc j'ai voulu amener cet enjeu-là dans mon travail de thèse. Et c'est pour ça que je me suis intéressée donc, à la maternité des femmes en situation de migration.
Voilà. Ok, très bien. Et ça fait combien de temps que tu fais cette recherche?
Là, ça fait 4 ans. Je suis en quatrième année de thèse. Voilà, c'est ça.
Ok. Du coup, je peux te demander si tu as envie de partager des questionnements qui traversent ou des morceaux de ta recherche que tu aurais envie de nous partager ce soir.
Oui, je peux vous présenter un peu la problématique, les intérêts qui me poussent à m'intéresser à ce sujet-là. Donc c'est surtout j'essaye de comprendre comment, parce que les femmes en situation de migration et surtout les mères, elles ont un traitement vraiment particulier par rapport aux hommes en situation de migration. Donc moi mon terrain il est donc dans une commune d'Île-de-France. Et en Île-de-France et à Paris, on voit, je ne sais pas si vous y allez, vous deux, de temps en temps. Là. Je dis vous, mais parce que vous êtes deux.
On est deux, en fait. Voilà. Moi, je suis au plateau et il y a quelqu'un à la technique.
C'est moi le deuxième.
Ouais, c'est ça. C'est pas que je vous vois,
et Marie. Moi, je vais en Île-de-France, des fois.
Moi aussi.
Et donc, on voit beaucoup d'hommes migrants seuls qui sont à la rue en fait à Paris, qui sont sur le bord du canal ou dans des tentes, dans des espèces de campements de fortune quoi. Et en fait on voit assez peu les familles avec des enfants, et en fait elles ont un traitement particulier quoi, dans le sens où comme la maternité c'est considéré comme un critère de vulnérabilité. Donc elles sont considérées, les femmes en général, à partir du moment où elles ont des enfants, elles sont considérées comme plus vulnérables. Elles sont beaucoup plus souvent prises en charge par des structures sociales qui vont les accompagner, qui vont notamment leur proposer un hébergement d'urgence, des choses comme ça. Donc en fait, elles sont très invisibles dans l'espace public. Et moi, j'essaie de comprendre en fait cette vulnérabilité qui est un peu dictée par le haut, mais en fait, essayer de comprendre aussi comment elle se construit cette vulnérabilité, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça suppose, et aussi qu'est-ce que l'accompagnement qui est proposé à ces familles-là. Comment en fait ils transforment leur comportement à l'égard de leurs enfants, mais également aussi leur comment elles se sentent en France, comment elles se sentent, enfin pas juste en termes de sentiments, mais aussi en tant que sujet. Bon, c'est un peu, j'ai pas envie de rentrer dans un vocabulaire trop anthropologique, sociologique, mais en tout cas leur rapport à l'État, leur rapport à la France, leur rapport à elles-mêmes en fait, comment ça les transforme en fait, le fait d'être considérées comme des mères vulnérables et d'être prises en charge comme ça, voilà.
Du coup, tu réfléchis aussi par exemple à comment ça transforme ou en tout cas comment ça agit sur leur maternité, sur
Ouais, c'est ça. Là, j'essaye de comprendre aussi comment leur comportement vis-à-vis de leurs enfants et aussi, par exemple, ça peut être leur lien même à leurs enfants, puisque c'est des familles qui sont à la fois protégées par des structures publiques, mais aussi qui vont être plus surveillées en fait, parce que elles sont sous le regard des travailleurs sociaux qui, pour le bien-être des enfants, va forcément faire plus attention à comment les mères elles se comportent, etc. Alors que d'autres familles ne sont juste pas sous le regard des travailleurs sociaux, vu que voilà. Donc c'est pas que les travailleurs sociaux sont forcément plus malveillants à leur égard, mais de fait ils les ont sous les yeux, donc ils font surtout elles d'ailleurs, je dis, mais beaucoup plus attention à la manière dont elles éduquent leurs enfants, à la manière dont elles se comportent avec. Et ça fait que, moi, il y a beaucoup de femmes que je rencontre qui me disent qu'elles font attention à la manière dont elles se comportent avec leurs enfants, parce qu'elles ont peur que leurs enfants ils soient placés dans des structures, en foyer ou dans des familles d'accueil, des choses comme ça. Moi, c'est pas forcément des choses que j'ai observées pour le moment, ce type de placement, mais en tout cas c'est une menace que elles vivent et qu'elles ont incorporée et qui peut parfois changer le lien aussi qu'elles ont à leurs enfants, puisqu'elles ont elles ont l'impression que ce lien là il est fragile en fait, et que leur enfant leur appartient pas complètement en fait, puisqu'il appartient à plus à la France qui peut le prendre. Enfin, ça c'est des mots que certaines m'ont dit, quoi. Okay. Que leur enfant appartient au gouvernement français, donc leur qui peut être que leurs enfants peuvent leur être pris, donc ça c'est voilà, ça impacte ce genre de choses par exemple.
Oui, c'est des moments, j'imagine aussi peut-être c'est des moments de où ta maternité en fait elle est donnée à voir, quoi, elle est mise à nu, elle est en tout cas elle est regardée, que les travailleurs sociaux, peu importe aussi leur action, mais du coup c'est aussi dépendant de ça, mais il y a un peu comme ça une mise à nu de la manière d'être mère, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est que elles sont beaucoup plus exposées, et ce qui est de l'ordre, la famille qui est considérée aussi de l'ordre de l'intime, finalement, elles, dans leur cas, c'est pas si intime, puisque il y a beaucoup d'exposition auprès de tout un tas de structures qui le font par ailleurs avec beaucoup de bienveillance, quoi. Donc ça impacte la famille de façon particulière. Et c'est aussi ça que... Enfin, c'est beaucoup ça aussi qui m'intéresse, moi, dans mon travail de recherche.
Ouais. Ok. Du coup, je voulais te demander aussi, pour toi... tout à l'heure, on va écouter un documentaire sonore qui s'appelle Radio à cœur ouvert. Et du coup, on avait envie de te demander pourquoi c'était important pour toi d'initier ces ateliers radio au milieu de ta recherche.
En fait, donc les femmes que moi j'ai rencontrées, elles sont vraiment, il faut s'imaginer, elles sont très précaires. La plupart, elles n'ont pas de titre de séjour. Elles vivent dans des hôtels sociaux où elles n'ont pas, pour la plupart, elles n'ont pas le droit de recevoir de visite. Elles n'ont pas trop d'argent. Enfin, certaines en ont un petit peu, mais la plupart pas trop. Donc, en fait, il n'y a pas d'espace de sociabilité. Elles sont très isolées, en fait. Et Et donc ça a fait plusieurs choses. Ça a fait que déjà, nous, en anthropologie, ce qu'on fait principalement, enfin, les méthodes traditionnelles de la recherche en anthropologie, c'est de l'observation. Mais finalement, dans ces situations-là où les femmes, elles sont cantonnées à leur chambre d'hôtel, auxquelles moi, je n'ai pas forcément accès, bon, il n'y a pas vraiment d'espace d'observation, en fait. Ou alors en observant juste le travail des structures. Mais donc moi, je vais être placée du côté des travailleurs sociaux et les femmes de l'autre côté du bureau. Et bon, en fait, concrètement, le lien, il est quand même assez difficile à créer. Donc ça, on va dire, c'est plus un enjeu méthodologique. Pardon. Et après, il y a des enjeux éthiques aussi qui m'ont poussée vers ça. C'est que... les femmes, donc, elles sont souvent face à des face-à-face inégalitaires. Donc là, comme je viens de le dire, par exemple, avec les travailleurs sociaux, devant un bureau où eux, bon, bah, ils posent des questions, puis elles doivent y répondre pour que leur dossier avance, pour obtenir une aide financière, pour ce genre de choses. Ou alors quand elles font une demande d'asile aussi, où elles doivent raconter leur parcours, raconter les violences subies. Pareil, dans un face-à-face inégalitaire. Et donc, en fait, moi, quand je faisais des entretiens avec elle, j'avais vraiment l'impression de reproduire ça, en fait. Et ça me convenait pas du tout. J'avais l'impression que, je sais pas, que le rapport là qui était en train de se créer, à la fois, il permettait pas, moi, que je me sente à l'aise, puis elle non plus, en fait, parce que moi, j'aime pas trop reproduire ce genre de rapport de pouvoir, et puis leur parole, elle n'était pas non plus très libérée, donc ça n'avait pas trop d'intérêt, en fait, ni pour elle, ni pour moi. Et puis c'était... ça posait des questions éthiques. Et aussi, sur les questions de la restitution de la recherche, quoi, parce que quand on fait une thèse, bon, c'est pas accessible à tout le monde. Et donc j'avais envie de mettre en place quelque chose qui pourrait permettre à tout le monde de pouvoir l'entendre, et notamment que elles aussi, que les femmes que moi j'ai rencontrées, elles puissent pouvoir utiliser cette forme-là, se l'approprier si elles ont envie, enfin voilà, en faire quelque chose et se rendre compte aussi de ce que moi j'avais fait, et voilà. Et donc c'est un peu pour ces raisons-là que j'ai mis en place des ateliers de création sonore, aussi parce que moi j'avais déjà fait de la radio et que je trouve que c'est vraiment super et que ça permet plein de choses, et voilà, c'est un peu ça qui m'a poussée vers ce projet là.
Ok, et du coup on a un peu envie de savoir apparemment, t'étais déjà en contact avec des mères, et c'est avec elles que t'as fait ces ateliers radio. Est-ce que t'as envie de nous dire, en tout cas, comment ça s'est construit ?
Ouais. Alors, ça s'est construit surtout dans une association où moi, j'avais fait déjà des observations, qui est une association qui fait de la distribution de produits d'urgence pour les mères isolées précaires. Et en fait, le public majoritaire, c'est des mères en situation de migration qui ont pas de titre de séjour. Et en fait, là-bas, moi, j'avais fait déjà pas mal d'observations et je sentais que c'était vraiment possible d'être force de proposition, d'amener des projets, etc. Donc moi, je les ai sollicitées pour pouvoir organiser ça là-bas. Elles étaient ravies. Et aussi, en fait, j'avais rencontré une femme en faisant mes observations qui était elle-même une mère en situation de migration sans titre de séjour et qui en fait m'avait raconté que dans son pays d'origine, elle organisait des ateliers avec des femmes dans une ONG, des femmes victimes de violences. Et en fait, je me suis dit, ah, mais ce serait super, en fait, qu'on organise ces ateliers-là ensemble, et que je voulais voir si elle, ça la bottait, et qu'on puisse donc co-organiser ça dans l'association. Donc elle était super motivée. Je ne peux pas dire son prénom pour des raisons d'anonymat, mais en tout cas, voilà. Elle était super motivée, donc on a organisé ces ateliers-là. Et en fait, bon, moi, je ne suis pas... Non, je ne vais pas dire que je ne suis pas méthodique. Je pense que je suis méthodique, mais je suis aussi un peu au feeling, là. Donc j'avais un peu organisé une espèce de... une idée... on s'était dit un peu ce qu'on avait envie de faire, mais c'était quand même très libre. Et donc, on a, à travers en fait l'accueil, donc au sein de l'association, en gros, donc elle qui était ma binôme, qui était au sein de l'association à ce moment-là, en fait, elle demandait aux femmes qui venaient chercher un colis si elles avaient envie de participer aux ateliers radio. Et donc, finalement, il y a eu 18 participantes qui ont bien voulu venir. Et donc, on a réparti en trois groupes. Donc, il y avait un groupe le mardi, un groupe le jeudi, un groupe le vendredi. Et au début, donc, on avait un peu prévu quelques thèmes, des petits trucs comme ça, puis des petits jeux aussi pour prendre en main le matériel. Parce qu'en fait, parce que vous allez entendre, c'est pas forcément moi qui ai fait les prises de son, ça peut être moi, mais ça peut être elle aussi, en fait. Les interviews, c'est tout le monde qui tient le micro. Moi, je sais plus du tout, là, dans ce que vous allez entendre, qui tenait le micro à quel moment. Et il y a vraiment, donc c'est vraiment, donc on a vraiment fait des petits ateliers pour apprendre à servir d'un micro, pour apprendre à faire des interviews, des choses comme ça. Et puis aussi, ça se passait sous forme beaucoup de groupes de parole, où en fait il y avait une thématique que on avait décidée en avance. Et que c'était pas forcément pareil, nous qui avions décidé de la thématique en fait. Chaque groupe avait plutôt une idée en tête un peu de ce dont elles avaient envie de parler. Donc il y avait un groupe qui avait plutôt envie de parler des violences que les femmes subissent, un groupe qui avait plutôt envie de parler de qu'est-ce que c'est qu'être sans papier en France, et un groupe qui avait plutôt envie de parler du parcours migratoire, donc vraiment de leur pays d'origine jusqu'à la France. Et ça, c'est vraiment elles qui se sont dit, c'est ça qui est important qu'on entende à la radio. Donc en fait, c'est comme ça que ça s'est monté. Donc avec à la fois quelque chose d'un peu construit, puis en même temps des choses beaucoup plus, enfin assez spontanées sur l'organisation. Voilà. Et moi, ben ouais, c'est ça. Est-ce que tu as d'autres questions?
Mais j'allais te demander combien d'ateliers vous avez fait, juste pour avoir une idée.
Ça s'est passé, alors je sais plus le nombre exact, mais en gros ça s'est passé sur 2 mois, et il y en avait donc 3 ateliers par semaine. Donc voilà. Et puis en fait les ateliers, ça durait quasiment toute la journée, parce que en fait, donc c'est pareil, elles ont pas de trop d'espace pour cuisiner dans les chambres d'hôtel. Elles ont juste un micro-ondes et des choses comme ça, donc c'est pas très pratique. Et en fait, donc ce qu'on faisait avant, c'est qu'on allait faire des courses ensemble. Il y avait tout un temps de cuisine, de repas partagés. Et puis en fait, voilà, donc dans le documentaire, il y a aussi ces moments-là de plus de partage collectif. Et ouais, c'est ça. Et donc, c'était des journées entières d'ateliers, enfin, à la fois d'ateliers, puis à la fois de temps ensemble.
Mais du coup, vous avez dû avoir des heures et des heures de son.
Ah ouais, ouais, ouais.
Et du coup, là, on va écouter 25 minutes. Ouais. Mais du coup, comment vous avez fait après pour choisir
Donc la partie plus montage, c'est quand même plutôt moi qui l'ai fait. Mais en fait, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de partir de ce que elles avaient envie de dire. Donc comme je te disais, c'est voilà, elles avaient un peu une idée de ce qu'elles avaient envie que le monde entende, parce que c'était quand même aussi ça l'enjeu. Et donc moi, je suis partie de ça, et à partir de ça. Moi, ce que j'avais envie aussi de dire, c'était que, les violences qu'elles subissent, c'est ça. Mais aussi, par exemple, à travers ces ateliers radio, et c'est aussi des personnes qui s'organisent, qui ont justement des choses à dire, qui prennent des espaces de parole, des choses comme ça. Donc, moi, j'ai essayé de tisser un fil entre ces... entre ça, enfin, en fait, entre leur parcours et puis le le temps collectif qui est en train de se vivre là pendant les ateliers radio. Et donc après, comment choisir? Ben franchement, je sais pas. C'est un peu... ouais, des fois, ben il y a des... Ouais, comment tu... Des fois, c'est des questions d'éloquence aussi. Mmh. Enfin, tout le monde a été très éloquent, c'est pas pour dire qu'il y en a qui ont été moins, mais des fois, c'est juste une personne a raconté son histoire et hop, ça marche bien là, comme ça, et c'est, après, c'est des choix, ça peut être des choix esthétiques, des choix de, aussi d'équité, que tu as envie que tout le monde, qu'on entende un peu tout le monde, ou des choses comme ça. Mais je sais pas si j'ai toujours fait les meilleurs choix. Mais en tout cas, pour choisir, donc voilà, moi j'avais un peu ce truc-là. Puis j'ai fait, en fait, à la toute fin des ateliers radio, il y avait l'anniversaire de l'association. Et j'ai fait un petit montage rapide d'une quinzaine de minutes pour pouvoir le faire écouter donc, aux participantes et aux gens qui étaient là. Et en leur demandant après à elles si ça leur allait la trame un peu que j'avais proposée. Et puis aussi voir si ça leur allait en fait que ce soit entendu en public. C'était un peu un test. Parce que je voyais bien que leur demander des questions plus précises sur des choix, est-ce qu'on met de cet entretien, et tout, ça marchait pas trop. Et donc là, en fait, elles ont écouté ça, et voilà, en fait, elles m'ont dit que oui, ça leur allait, et que ça leur allait que ce soit diffusé, en fait. Donc c'était un peu ma manière de les impliquer dans la partie plus montage, qui est quand même technique, et que ouais. Bon, ça les intéresse pas forcément non plus, voilà.
Ouais, peut-être, je me posais une question, c'était justement par rapport à la diffusion. Si toi ou elle, ou ensemble, vous avez des attentes sur la diffusion, sur ce moment-là, je crois que la diffusion, elle commence un peu là. Est-ce qu'il y a des attentes? Est-ce qu'il y a un imaginaire sur la manière dont ça va se diffuser, ça va s'écouter, etc. Voilà, je me posais cette question-là.
À la base, je pense que elle et moi, on s'était dit qu'on aimerait bien que ce soit diffusé dans des espaces où aussi elle navigue. Donc les... Bon, je sais pas, mais par exemple, là où il y a les travailleurs sociaux qui travaillent, des choses comme ça, que aussi les gens puissent entendre ça. Ça, c'est un enjeu. Après, oui, enfin, ça dépend des... Fin, ça dépendait de qui, quoi. Mais je pense qu'il y a vraiment une volonté, en tout cas, que ce soit diffusé largement et entendu. Après, on n'a pas réfléchi de façon très approfondie aux choses. Moi, en tout cas, la manière dont j'y réfléchis, c'est que je me suis dit que le documentaire, peut-être tout seul, c'était bien de l'introduire et de le présenter. Donc, je trouve ça important, en fait. Je ne sais pas si j'ai envie qu'il fasse juste sa vie tout seul, sans texte ou sans petite présentation avant-après, parce que je suis pas sûre que ce soit très clair. Mais en même temps, j'avais pas envie de mettre une voix off, par exemple, ou de moi de raconter mes histoires de thèse au sein du documentaire, vraiment. Je trouve ça bien que... enfin, je sais pas, que ce soit un peu séparé, mais ensemble. Donc ouais, c'est un peu... mais c'est pas très clair encore.
Ok. Est-ce que avant qu'on le passe, t'avais envie de dire autre chose, d'une question que je t'ai pas posée ou de quelque chose qui te vient là?
Non, pas particulièrement. Je crois que c'est bon.
Ok. Bon, ben merci beaucoup en tout cas d'être venu.
Merci à vous.
Et là, vous allez avoir le plaisir d'écouter Radio Cœur Ouvert.
Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Ici, c'est Radio à cœur ouvert. On va parler de tout et de rien.